Forêt Live présente Frank, le dédomiseur.
Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur.
Dédomise-toi, Elgin. Frank, le dédomiseur.
Bon lundi, mon Frank. Bon, comment ça va?
Ça va, vous autres?
Très bien. Good. As-tu entendu la Légion tantôt, les délires anti-hommes de Radio-Canada? Tout est parfait. Radio-Canada, oui, capable du meilleur comme du pire. Hein? Belle couverture olympique, mais des délires anti-hommes incroyables. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont aux Olympiques. Mais on les valorise. On valorise nos athlètes hommes. Mais ça, c'est à la télé olympique. Mais dans la même boîte, vous avez du délire anti-homme. C'est complètement débile, cette affaire-là.
Ouais, j'ai entendu le truc là, de l'espèce ouais. de Andrew Tate version femme. Là.
Oui.
Parce que c'est ça, au final. Là. Moi, je comprends pas pourquoi il y a des deux. Ben, je comprends pas pourquoi.
Double standard.
C'est rhétorique ce que je viens de dire. Je le comprends, là, pourquoi. Là. Mais moi, j'accepte pas qu'on peut avoir des doubles standards de même. Ça fait un peu penser au... comment il s'appelle le présentateur à CNN là, qu'on voit toujours? Van Jones,
t'sais. Oui.
Lui, à peu près toutes les interventions qu'il fait, il parle de racisme. Puis quand il y a eu le gars qui a poignardé la fille dans l'autobus aux États-Unis en criant « I got the white girls », là, il trouvait pas que c'était un geste raciste. Ben là, c'est, maintenant, c'est pas parce qu'elle est blanche que c'est pas raciste. Là. Le racisme, c'est la hiérarchie entre c'est la différenciation entre et la hiérarchisation entre les origines ethniques et les origines raciales. C'est ça. Fait que ça va dans tous les sens.
C'est pas parce les woke, l'agresseur, c'est l'homme. L'homme blanc surtout, l'exploiteur, c'est le blanc. Et les autres minorités sont des perpétuelles victimes.
Ben oui, c'est ça. Puis là, le narratif en ce moment, c'est que l'homme est dangereux, l'homme est violent, l'homme est un agresseur, tout ça. Puis
on laisse ça en ongle.
Ils sont des victimes de ça. Donc, on peut casser du sucre sur. Mais elle, est allée assez loin. Là. J'ai lu un article qu'elle avait publié, je pense, c'était dans Nouveau, dans lequel elle disait que je ne sais plus comment elle disait ça, mais elle disait en gros, les hommes tuent leurs conjointes. Je veux dire, OK, oui, ça existe, là, mais je veux dire, c'est quand même très minoritaire. Là, la très vaste majorité des gens qui sont en couple, les femmes ne se font pas tuer par leur mari là, ou leur conjoint. Là, on est rendu dans le délire. Là.
Est-ce qu'on est obligé de donner une tribune aux délirants?
Semble-t-il, ben ça dépend. Ça dépend de quel bord tu délires.
C'est la tribune, le problème. C'est la personne peut délirer, mais si tu donnes une tribune à quelqu'un qui délire, à mon avis, ton niveau de responsabilité est supérieur. Si moi, je fais venir un chroniqueur néo-nazi à toutes les semaines, c'est moi qui ai un problème. Lui, il a le droit d'être néo-nazi, puis il s'arrangera. Mais dans la vie... Il y a plein d'extrémistes, de gens wacko. Mais la personne qui détient la tribune, le diffuseur public, en l'occurrence Radio-Canada, c'est eux autres les responsables. Il faut que tu aies une responsabilité de diffuseur. Mais oui. C'est complètement fou ce qu'on entend.
Il y a toujours un sens. Tu sais, c'est comme tu peux délirer, mais toujours dans le même sens. T'sais, si tu. Ils n'inviteront pas, évidemment, un pro-Trump qui délire sur MAGA puis tout ça, mais ils vont inviter quelqu'un qui nous dit qu'on est sur le bord d'avoir des tanks pour traverser la frontière. Après ça, je ne sais pas si tu te rappelles, moi, ça me fait rire parce que moi, j'ai fait des chroniques sur l'antenne que les gens écoutent en ce moment, à Radio X, en 2018, je pense. Mais Doom était là dans le studio quand est sortie l'affaire de Jeffrey Epstein. J'ai fait deux, trois chroniques là-dessus à l'époque où j'en parlais avec les informations qu'on avait à l'époque. C'est un sujet qui était complètement fermé dans les médias. Si tu parlais de ça, tu étais un genre de bizarre, de wacko, de tout ce que tu veux. Là, on est rendu dans les journaux, dans les quotidiens québécois. On cherche à savoir, y avait-tu des Québécois sur la liste d'Epstein? Puis là, y a-tu un gars de Trois-Rivières là, qui connaissait Epstein? T'sais, on est rendu là-dedans. Là, c'est comme rendu... Oh, tu peux parler de ça matin, midi, soir. Puis là, t'es plus un coucou, t'es plus un weirdo, t'es plus un complotiste. Là, c'est correct. Fait que moi, je trouve ça un peu ridicule, tout ça. Je trouve ça vraiment un peu ridicule.
Parenthèse, avant d'aller à ton sujet, c'est quand même un peu délirant. La couverture du journal en fin de semaine, pour vrai, là. Je sais pas, Céline, comment elle a pris ça de se faire saucer, là. Tu sais, parce que tu lis ça, il n'y a pas d'histoire, là. Elle voulait y vendre sa maison, lui, elle trouvait l'aide. Il a trouvé trop cher. Mais tu sais, en fin de semaine, là, c'était t'es Québécois, t'es dans le registre, on s'en fout ce que t'as fait ou t'as pas fait. Ah ouais, on te donne la bascule. Hey, fait que t'avais là-dedans Céline, t'avais une trollée de le monsieur Stroll, le père de Lance Stroll qui est pilote de course.
Oui.
Ah Jacques ouais, Villeneuve.
Jacques Villeneuve.
Pire, c'est Jacques.
Tout le monde là-dedans. Ah ouais, donc. Là, tu lis, il n'y a pas d'histoire. C'est juste pour vendre des copies. Mais moi, je sais pas, là, ma face à côté d'Epstein, ça me tente pas. D'après moi, il y a un avocat. Il y a un avocat pas loin avec une mise en demeure, là. Céline n'a pas dû triper, pour vrai. Puis tu lis, il n'y a pas d'allégué embarrassant. Mais il y en a demain, pas moins que c'est zéro histoire, là. Elle a cherché quelqu'un de riche pour acheter sa maison. Puis lui, il voulait pas l'acheter, il la trouvait trop cher et trop laide.
Il y a beaucoup de gens qui sont chanceux, que René n'est pas arrivé.
Hé! T'as un excellent point ce matin. René est en vie, là. Il ne s'est pas imprimé dans le journal.
Non, je te confirme que non.
Excellent point. OK, on va y aller avec ta chronique. C'est un député qu'on va peut-être apprendre à connaître, mais c'est un député qui est purement inconnu, mais qui connaît très, très bien Evans et évidemment Poilievre, député conservateur. Qu'est-ce qui s'est passé avec Givani?
Oui, donc Jamel Givani, qui est un jeune député quand même, il a 38 ans, le gars. Puis ça fait pas longtemps qu'il est là. Il a été élu dans une partielle en 2024, puis il a été réélu lors de l'élection générale qui a eu lieu l'année passée dans le coin de Toronto. C'est lui qui a remplacé Erin O'Toole. Il a gagné dans le comté de Erin O'Toole, la circonscription de Durham. Et lui, ce qu'on savait pas, en fait, c'est que c'est un chum de J.D. Vance depuis 15 ans. Puis ça, c'est pas des rumeurs, c'est lui qui l'écrit même dans sa lettre qu'il a publiée dans le National Post. Et c'est le timing est quand même drôle parce que je sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, à peu près à pareille date, les 13 premiers puis dirigeants de territoire, je sais pas comment on les appelle, ceux qui sont dans le territoire du Nord-Ouest puis tout ça, là, se sont rendus à Washington. Puis on avait des articles là-dessus, là, Premier will go to Washington. J'ai encore le titre devant moi avec Ford y allait. Legault était là. Finalement, ils ont rencontré personne, puis ils ont pris des photos en avant de la Maison-Blanche. Essentiellement, c'est ça. Et Giovanni, lui, c'est plus intéressant parce que lui connaît personnellement le vice-président et il nous avait comme un peu teasé en la semaine passée, je pense que c'était vendredi. Il a dit « J'ai rencontré tout le monde, puis President Trump, il avait un message pour vous autres. Il me dit aux Canadiens que je les aime. » Fait que là, tu sais, ça a fait le tweet, a fait le tour du monde quand même. Là. Ça a été assez viral. Et là, il publie une lettre dans le National Post qui s'appelle « Ce que j'ai appris lors de mon voyage à Washington ».
Hey, je l'ai pas lu, raconte.
Et il dit quand même là-dedans, il dit « Je me suis assis avec le président, le vice-président, puis Marco Rubio. » Fait que c'est avec la team de tête. Là. Il a pas rencontré des tout croches.
Non, la stagiaire qui fait le café Keurig. Là.
Non, là, c'est ça. Il a pas rencontré la fille qui fait faire le tour de la Maison-Blanche puis aller faire un tour des cuisines. Il a vraiment rencontré le monde en haut de la pyramide. Puis ce qu'il dit là-dedans, lui, c'est qu'il dit qu'il a senti qu'il y avait quand même des bonnes ouvertures pour négocier, que tout le monde est conscient que ce qui est au cœur de l'histoire, c'est l'accord de libre-échange. Là. C'est l'ACEUM, là, ou ce qu'on appelait dans le temps l'ALENA. Là. Et il dit, pour l'instant, il dit, je peux pas en dire beaucoup sur ce qu'on a jasé, parce qu'il dit, je veux passer par le premier ministre avant. Parce que moi, ce que j'aime de sa démarche, c'est qu'il a dit, là, il faut mettre la partisanerie de côté, c'est les intérêts canadiens qui sont menacés. Fait qu'il dit, moi, je propose mon aide à Mark Carney. Dans le fond, si mes connaissances puis le fait que je sois ami avec quelqu'un peut l'aider, ben je vais le faire, puis je peux servir d'entremetteur, tout ça. Fait que c'est ce qu'il a décidé de faire.
Mais là, aurait fallu faire ça en campagne?
Il aurait fallu faire ça, moi, je pense, l'année passée. Mais peut-être mieux vaut tard que jamais.
Oui.
Peut-être c'est le parti qui voulait pas qu'il le fasse. Je le sais pas. J'ai essayé de m'informer de contacts que j'avais, savoir si c'est une initiative qui est la sienne ou s'il est un envoyé de Poilievre, autrement dit, puis j'ai pas eu de réponse à cette question-là, donc je peux pas vous en dire plus.
Ben continue à parler, moi j'ai un contact dans les hautes sphères. Je vais avoir la réponse avant la fin de ta chronique.
Bon, ben on verra s'ils te répondent pas. Peut-être des fois, une absence de réponse est une réponse, c'est ce que j'avais interprété de mon côté. Mais ce qui est intéressant dans sa lettre, parce qu'il dit, je peux pas trop vous dire ce qu'on a jasé, parce que c'est confidentiel, puis je vais en parler avec Carney, puis je vous en parlerai après, mais il y a une affaire qu'il dit à la fin de la lettre qui est vachement importante. Il dit... On est en train de refaire les mêmes erreurs qu'en 2017. C'était quoi l'affaire en 2017? C'est que le Canada a joué d'arrogance. ils ont laissé les États-Unis et le Mexique négocier ensemble. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, jusqu'à la dernière minute, il y avait quasiment suspicion qu'il n'allait pas avoir d'entente. Et le Canada a été réintégré un peu en catastrophe pour finalement signer l'entente là, trilatérale. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que présentement, avez-vous remarqué qu'on n'entend plus du tout parler de Trump avec la présidente du Mexique? Parce qu'au début, rappelez-vous que quand il est arrivé l'histoire du 25% tariff puis de Governor Trudeau puis tout ça, il soulignait le Mexique dans tous ses tweets aussi.
Oui.
Là, le Mexique est comme disparu. Mais il dit pourquoi le Mexique est disparu? Parce qu'ils sont sur le bord d'une entente pour vrai. Puis là, nous autres, on fait rire de nous autres. Parce que les Américains vont s'entendre avec les Mexicains. Puis si ça fait pas, là, ils peuvent avoir une entente unilatérale, une entente bilatérale États-Unis-Mexique. Mais nous autres, on veut-tu être exclus de ça? Parce qu'on n'est pas capable de piler sur notre orgueil, parce qu'on négocie pas de bonne foi, ou peu importe la raison. Mais lui, ce qu'il a dit, c'est que ce qu'il a observé dans ses rencontres là-bas, c'est que le Canada est sur la même track que 2017, puis il dit ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Fait qu'il faut se mettre à la table sérieusement, puis peut-être s'inspirer du Mexique, je ne sais pas, peut-être faut aller voir de ce côté-là qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous autres. Pour les amadouer, finalement. Il n'y a pas juste Starmer et Macron dans la vie. Là. On dirait qu'on boude les Mexiques comme si c'était un pays qui n'existait pas. Là. Mais je ne sais pas, ils ont de l'air à dealer avec les Américains pas mal mieux que nous autres. Peut-être on pourrait s'en inspirer. Là.
J'aime ça. Est-ce que Harper a influencé là-dedans? T'sais, en voulant dire... Parce que là, moi, suite à la sortie d'Harper, Harper, qu'est-ce qu'il a dit? Travailler ensemble, conservateurs, libéraux, arrêtez de vous chicaner. C'est un peu spécial. Parce qu'un jour, Poilievre voudra bien être différent de Carney. Mais là, c'est quasiment un gouvernement de coalition qu'on a à Ottawa. Là. C'est ma perception des choses. Deux partis gouvernent ensemble. Il n'y aura pas de renversement de gouvernement. Ils peuvent continuer comme ça pendant 2-3 ans. Et c'est unissez-vous contre Trump. En gros, c'est ce qu'a dit Harper. Ouais. Donc, est-ce que ça viendrait de Stephen Harper, justement, le fait que, OK, Pierre, envoie-le Giovanni. Mark, es-tu d'accord? Parfait. Giovanni va aller faire les commissions, il va aller prendre un petit café avec la gang dans la Maison-Blanche. C'est le seul qui a accès à la Maison-Blanche pour vrai, là. Ben, date d'un derniers mois.
Il ben, y a peut-être quelqu'un un moment donné qui a allumé. Là. Dans la vie, tu te sers de tes contacts.
Tout le temps.
T'sais, si toi, tu me dis, hey, je sais pas, telle personne, j'aimerais ça y parler, puis tu t'aperçois que moi, je la connais, ben, t'es un peu nono de pas essayer de me demander ou de dire, tu peux-tu me donner son numéro, c'est de même, ça marche dans la vie. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas à cette échelle-là. T'as le gouvernement canadien qui est culotte à terre. Ben, rappelez-vous, je sais pas si vous vous souvenez de ça, là, mais quand Trudeau quand Trump a gagné, on a appris que le gouvernement canadien avait réactivé ses contacts au sein de son équipe à peu près là, quelques jours avant l'élection. Ça veut dire qu'eux autres, ils étaient tellement persuadés que les démocrates allaient gagner qu'ils n'avaient même pas rouvert de canaux de communication
avec les républicains.
Ça, là, c'est...
rare.
Ça, c'est... Ben, normalement, premièrement, tu devrais avoir des canaux avec les... C'est ce que Daniel Smith avait expliqué.
Tout le monde.
Avait dit, nous autres... En Alberta, on est toujours préparé à ce que le pouvoir change de place, puis on sait ce que veulent les démocrates, puis on sait ce que veulent les républicains, puis on ajuste notre discours en fonction de qui prend le pouvoir, puis de c'est quoi leur priorité. Puis tu sais, c'est gros là, ce qui est au bat en ce moment. Là. Je rappellerai que la semaine passée, je sais pas si vous en avez parlé, là, mais le directeur de la Banque du Canada est sorti pour dire que s'il n'y a pas de nouvelle entente, là, de libre-échange, là, c'est une récession qui atteint les Canadiens. Là. C'est ça la réalité. Là. Et le gars est quand même assez optimiste dans ses affaires. Il dit, si le Canada, là, je lis dans l'article, là, ce qui a été publié dans le Financial Post, il dit, si le Canada obtient le scénario de base que les Américains ont donné aux autres pays, c'est-à-dire un tarif de base de 10%, c'est un scénario récessionniste. Fait que je vous épargne là, si c'est 20 ou 25. Là, c'est un cas de crise économique majeure. Là. Fait que tu sais, il y a gros qui est au battre là-dedans. Fait que tu sais, moi, que des gens se bombent le torse. Oui, on va se battre jusqu'à la mort, puis c'est ci, puis c'est ça. Ouais, c'est-tu vous autres là, qui êtes au battre? Là, il y a des gens qui ont des entreprises, il y a des Canadiens qui ont des jobs qui peuvent perdre. Là, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont carrément désinvoltes. Ah, c'est pas grave, mais on va se battre. Puis si jamais ils arrivent aux frontières, moi, je prends mon gun. Ça, hey, t'as peu, là. Là, on va se calmer.
On va se calmer les nerfs, exact.
On va se calmer les nerfs, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu, y compris probablement celles de ceux qui écoutent. Là.
Très bien dit. Merci beaucoup, Frank.
Yes.
Merci, bye. Juste pour résumer de qui on parle, on parlait de Jamil Givani. Qui est-il? Député conservateur de Durham. A étudié à Yale. Même université que J.D. Vance, vice-président. Très chum. Un point tel que Givani, conservateur dans la gang à Poilièvre, a fait des lectures de la Bible lors d'un mariage religieux, nécessairement catholique, lors du mariage de J.D. Vance. C'est quasiment son best man. C'est quasiment son homme d'honneur. Garçon d'honneur, c'est ça qu'on dit. Très, très proche. Et Givani a été envoyé à Washington en émissaire de paix, en guillemets, au cours des derniers jours pour rencontrer justement J.D. Vance et tenter de débarrer un peu la Maison-Blanche. C'est un peu ça, là, parce que la date, les relations sont pas très bonnes. C'est ce qu'on me glisse à l'oreille.